La pratique d'un sport d'élite représente un investissement majeur en termes de temps, de sacrifices et d'argent. Quand il est question d'un sport adapté, le coût est encore plus élevé en raison de l'équipement acheté, dont le coût dépasse parfois largement celui d'un sport régulier. Comment briser cet obstacle financier afin de permettre à un maximum d'athlètes aspirer à leur rêve paralympique? On le découvre au Signal. Kevin Breton au micro en ce vendredi 16 février. Très heureux de vous retrouver. Les Jeux olympiques battent leur plein et dans quelques semaines à peine, ce sera au tour des athlètes paralympiques de se rendre sur les pistes et sur les montagnes de ski pour les dévaler. Et ben, parmi ceux-ci, bien, il y a plusieurs athlètes dont les Jeux paralympiques représentent vraiment le point culminant dans leur carrière. Après des années de sacrifices, des années de sueur, des années surtout d'investissement en termes littéraires, au sens littéraire du terme, dans le premier sens du terme, en termes d'argent dépensé, parce qu'effectivement, on y pense pas souvent, mais le sport adapté, s'il y a un facteur particulier, c'est que l'équipement est souvent plus dispendieux à se procurer. Il peut y avoir plus d'entretien également à faire. On peut penser aux fauteuils roulants de course. Comment on fait pour contourner cet obstacle-là? Il y a Catherine Gosselin-Després, qui est directrice exécutive sport pour Paralympique Canada, qui a accepté de passer l'émission avec nous pour nous en parler. Elle va également nous entretenir au sujet de la Coupe Parafort en deuxième moitié de l'émission, qui est un événement qui sert justement à amasser des fonds pour financer les rêves paralympiques des athlètes avec un handicap. Catherine est au bout du fil en direct d'Ottawa. Bonjour Catherine.
Bonjour Kevin, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Est-ce qu'on commence à être énervé dans le bon sens du terme là, à l'approche des Jeux paralympiques?
Oui, on a très hâte de partir puis d'être dans l'action assurément.
Oui, j'imagine bien. On en parlait en pré-entrevue la semaine dernière ensemble parce que ça faisait longtemps que je voulais parler du coût relié à la pratique du parasport. Est-ce que j'ai raison de le dire que de façon générale, ça coûte plus cher faire, par exemple, de l'athlétisme en fauteuil roulant que de l'athlétisme sur piste avec nos deux souliers?
Oui, c'est certain que c'est un petit peu plus cher parce que plus un athlète monte dans le système, plus l'équipement doit être adapté à ses besoins, à lui ou à elle. Et puis aussi, ben c'est sûr que quand on vient à compétitionner contre d'autres pays au niveau plus haute performance, ça devient beaucoup plus difficile là, de rester compétitif. Donc l'innovation, la recherche, etc. est très importante.
Est-ce qu'on peut avoir une échelle de grandeur? Parce que je comprends qu'en fait, au début, plus qu'on évolue dans le temps, puis plus qu'on veut atteindre des hauts sommets de compétition, l'équipement va se perfectionner en parallèle avec l'innovation là, qui s'améliore à chaque jour. Puis c'est ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, un fauteuil roulant de course, pour prendre l'exemple estival, combien ça peut coûter?
Ben c'est ça. Si c'est un athlète qui va aller aux Paralympiques, ça peut-être même monter jusqu'à dans les 10 000 $ là, pour juste un fauteuil.
Wow.
Puis en plus, normalement, il y a plus qu'un fauteuil qui doit être utilisé. Comme par exemple, souvent, il va avoir un fauteuil de compétition, un fauteuil de pratique. Donc, des fois, c'est plus qu'une fois le coût là, de l'équipement comme tel. Donc, ça peut monter grandement. Là. Donc, il y a toute une échelle dépendamment de ce que l'athlète veut spécifiquement pour ses besoins.
Disons plus bas standard si on veut pas décourager peut-être une personne en fauteuil roulant qui voudrait se mettre à l'athlétisme sur piste puis se procurer son premier fauteuil, un peu comme sa première paire de patins qui est peut-être pas du haut de gamme, là. On parle de combien environ?
Ouais, ben je dirais qu'ils peuvent trouver quelque chose de base entre 500 et 1500 $ là, mais souvent ce qui arrive aussi, qui est une belle histoire, là, je dirais, c'est des fois là, il y a de nos athlètes ou de nos participants qui aussi donnent leur fauteuil pour les nouvelles générations. Donc ça c'est une façon qu'on a vue dans le passé, là, qui a été une façon efficace aussi de pouvoir économiser un petit peu, là, c'est ça.
Oui, parce qu'il faut suivre également la croissance. Quelqu'un qui commence à faire de l'athlétisme à 18
exact.
Ans va toujours peut-être une fois rendu à 30 ans céder son autre fauteuil. Ça aura peut-être pas été sur la même page technologique de où on en est en ce moment avec le progrès, mais ça pour des premiers tours de piste, ça peut très bien faire l'affaire.
Exactement.
Si on prend l'exemple hivernal maintenant, moi j'aime bien la campagne de publicité que vous faites sur Twitter notamment, qui compare par exemple le coût relié à la pratique du hockey luge versus le hockey comme on connaît, le hockey régulier. L'exemple est assez frappant.
Ouais, non, c'est certain. C'est sûr qu'une luge, c'est un petit peu plus cher que des patins.
Ouais.
Puis, ben, c'est toujours important que ça soit aussi bien fait pour le corps de l'athlète quand ils vont être assis dedans. Tu sais, c'est sûr que le confort des pieds versus le confort d'être assis, ça peut être différent aussi. Puis comment le confort est interrelié aussi à la pratique du sport là pour un athlète potentiel qui est dans un fauteuil, qui transfère dans sa luge, etc.
Il y a tout un aspect ergothérapeutique, en fait,
Exact.
qui entre
Exact.
en ligne de compte. Puis, on en parlait de l'innovation parce qu'on dit que vous nous avez mentionné que certains athlètes possédaient plusieurs fauteuils roulants. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les athlètes qui se rendent au niveau paralympique sont. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui se démarquent, mais ils ont tous atteint un certain standard. Puis maintenant, la rendue là, la façon de se distinguer, c'est d'enlever un petit kilo ici, un petit livre là, pour pouvoir aller chercher la seconde manquante pour terminer sur le podium.
Exact, ouais, puis ça va même dans les matériaux dans lesquels les fauteuils sont bâtis, des choses comme ça. Donc, ouais, chaque petite seconde qui peuvent être gagnées compte. Puis, c'est ça l'innovation dans le fond. Puis ça prend beaucoup de recherche et développement pour s'assurer que tout est optimal, là, que ce soit de la poussée, comment l'athlète place ses bras, son casque, le matériel du fauteuil, là, c'est chaque petite chose est très importante quand tu t'en vas dans le haut niveau.
On a parlé de l'aspect héritage où la génération précédente pouvait donner ou prêter son fauteuil roulant à de plus jeunes espoirs. Mais sinon, ça fonctionne comment, par exemple, pour quelqu'un qui pratiquerait le basketball en fauteuil roulant? Est-ce que c'est la fédération qui aide à débourser une partie des coûts ou?
Ben, ça dépend où ils sont un peu dans leur développement, là. Donc, c'est sûr que des fois, les fédérations, soit provinciales ou comme même nous, là, au comité paralympique, on a des programmes de financement, que ça soit avec le programme Bon Départ ou nos autres programmes, pour essayer d'aider au financement de l'équipement comme tel. Mais tu sais aussi tu sais il y a d'autres opportunités en basketball par exemple il y a plusieurs compagnies qui offrent les chaises de basketball de façon un petit peu plus standard si on veut pour les divers niveaux là donc c'est ça il y a des compagnies comme telles là, qui sont spécialisées là-dedans.
Il faut aussi souligner, par exemple, il y a le Siva qui me vient en tête à Montréal.
Exact.
Qui offre des ateliers où est-ce qu'on peut se rendre sur place et jouer à tous les samedis au basketball en fauteuil roulant avec des fauteuils qui nous sont prêtés. C'est une bonne manière de s'initier au sport. Catherine, vous nous avez parlé de la fondation Bon Départ avec Canadian Tire. Pouvez-vous me parler plus largement de la contribution des entreprises privées puis comment elles aident les athlètes à réaliser leurs rêves?
Ouais, mais c'est sûr que nous, là, on a beaucoup de partenaires privés en plus du support qu'on reçoit du gouvernement du Canada. C'est sûr que leur support est très, très important en termes, pour nous, là, que ça soit au niveau de la fondation, que ça soit au niveau de s'assurer qu'on a tout ce qu'on a besoin pour aller aux Jeux paralympiques ou même les programmes qu'on offre, là. Donc moi, en tant que directrice des sports, là, je suis assez chanceuse parce que souvent, je suis la personne qui est en moyen de pouvoir placer les programmes que ces compagnies-là veulent supporter, là. Donc, non, c'est ça, on reçoit une grande contribution là, du privé, de nos divers partenaires, que ce soit la CIBC, Canadian Tire, Petro-Canada, Suncor, on en a plusieurs, là, Pfizer aussi, que ça fait des années là, qu'ils nous supportent. Donc, on est toujours très, très redevables là, de leur support et de ce qu'ils font pour les athlètes, les entraîneurs, puis les équipes de support de nos fédérations sportives aussi là, pour aller de l'avant, puis la future génération aussi.
Oui, parce que on a parlé du coût de l'équipement, mais est-ce qu'il y a en plus dans le long cheminement sportif paralympique d'autres facteurs financiers qui entrent en ligne de coût en termes de dépenses auxquelles on pourrait peut-être pas penser après ma barre?
Oui, bien, c'est sûr que quand on a un handicap, il y a d'autres petites barrières qui peuvent s'ajouter. Là, c'est peut-être un petit peu moins facile de te transporter d'un point A à B par toi-même. Tu sais, par exemple, si tu es en fauteuil, c'est sûr que le transport adapté est une option ou peut-être une voiture adaptée si la personne peut avoir ça. Ou, tu sais, il y a d'autres facteurs qui doivent être pris en considération pour s'assurer de l'accès au sport comme tel. Je parle même, tu sais, des gymnases ou des piscines, des places où la pratique du sport se fait. Il faut que ça soit accessible et facile pour les gens qui ont handicap de pouvoir simplement même de passer de l'entrée au vestiaire à la piscine ou des choses comme ça. Là. Donc, c'est sûr que la complexité est un petit peu plus importante. Puis c'est vraiment important qu'on puisse enlever ces barrières-là là, de différentes manières, que ce soit par des programmes souvent sociaux dans les villes ou les transports adaptés ou la manière que les gouvernements font des investissements dans les infrastructures et tout ça. Là. Donc, tout ça aide à améliorer la pratique sportive, là, surtout du côté paralympique pour nous aussi.
Oui, ça rajoute une couche de complexité. Vous faites bien de le mentionner parce que j'aime bien l'exemple de la voiture que vous me donnez ou du transport parce qu'effectivement, si le transport en commun, le transport adapté est déficient, un athlète qui a un agenda très rigoureux en termes d'entraînement veut pas nécessairement manquer un entraînement puis être dépendant des aléas du transport adapté, va être tenté de s'acheter sa propre voiture, mais ça représente un investissement majeur également. Puis moi, j'avais en tête l'exemple de Camille Chai, qui est un espoir paralympique, qui était venu ici en studio il n'y a pas si longtemps, puis qui me disait, ben moi, quand je vais m'entraîner au stade olympique, ça coûte très cher le stationnement, je dois me stationner un peu plus loin dans les rues. Fait que soit c'est un investissement en termes de temps ou c'est un investissement supplémentaire en termes d'effort.
Exactement. Mais puis des fois, c'est de l'argent pur et simple.
Oui, oui, oui.
Donc, c'est important de prendre ça en considération, oui.
Avant d'aller au pont musical puis de parler de la Coupe Parafort, Catherine, je voulais quand même qu'on parle de la recherche de commandites. C'est quand même une façon souvent pour les athlètes d'aller chercher le petit coussin qui vont leur permettre d'être un peu plus à l'aise financièrement. Puis je me demandais, des athlètes paralympiques qui vont vouloir aller chercher des dons ou des commandites du privé, est-ce que c'est plus complexe parce qu'on les voit moins à la télé ou au contraire, ça permet à des entreprises de se distinguer en se disant « ben nous, on appuie un athlète paralympique puis on est fiers de le faire ».
Ouais, ben, je pense que c'est ça. Il y a différents modèles, là, mais c'est certain que, en général, je pense que ça va quand même assez bien pour les athlètes paralympiques. C'est sûr que ça prend du temps puis de l'investissement de la personne comme telle pour faire son réseautage, que ça soit dans sa communauté ou avec les compagnies dont le sport peut venir, là. Donc c'est certain qu'il faut que la personne puisse un peu aussi se promouvoir elle-même. Et maintenant, avec les médias sociaux, je dirais que la donne a changé beaucoup là, depuis les dernières années. Puis c'est sûr que nous, au Comité paralympique, à travers notre département de communication, marketing, etc., on fait beaucoup plus de campagnes médiatiques autour des Jeux. On s'assure aussi là, tu sais, de même travailler durant maintenant la période olympique pour qu'on ait de la promotion. Nos commanditaires nous aident énormément avec leurs commerciaux aussi là, en termes de démontrer là, un peu, tu sais, oui, le sport paralympique est intégral dans la culture canadienne. Puis c'est important que tout le monde reconnaisse c'est quoi là, dans un sens. Donc, tu sais, on a vu des campagnes justement là, actuellement durant les Olympiques, que ça soit de Toyota qui est un de nos nouveaux commanditaires, Canadian Tire avec le Hockey Luge. On en voit de plus en plus là, puis ça c'est vraiment positif. Je pense que ça va aider les athlètes à faire leur propre recherche de commandites puis de pouvoir se promouvoir pour avoir des fonds pour aider leur entraînement puis tout ce qu'ils font pour atteindre le niveau qu'ils veulent pour de haute performance ou non, si c'est pas ça leur but, mais être capable de récolter des fonds à travers le privé un petit peu plus facilement que peut-être dans le passé.
Est-ce que vous sentez même que sur le plan marketing, parce que vous êtes quoi depuis 2013 est-ce que vous sentez que depuis 2013, l'engouement marketing pour soutenir des athlètes paralympiques s'est bonifié au fil des années, depuis 5 ans, là?
Moi, je dirais que oui. Puis c'est certain que je pense que même nous, le Comité paralympique, on a fait un meilleur travail là, à promouvoir les Jeux comme tels, promouvoir les athlètes à travers des profils de ceux-ci, promouvoir nos événements de façon plus régulière, etc. Donc, c'est important pour nous là, qu'on devienne un plus-value là, pour les athlètes, les fédérations nationales du sport, pour les aider à mettre le sport paralympique de l'avant, parce que des fois, tu sais, ils ont pas les moyens pour faire ça, des campagnes publicitaires, là, c'est quand même pas donné. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec, justement, là, un peu notre image de marque pour essayer d'aider là, cette promotion-là, puis que les athlètes peuvent eux-mêmes aussi là, aller de l'avant, puis récolter leurs propres fonds de commandite ou autre.
On s'en va au pont musical de la mi-émission, puis on va être de retour tout de suite après, toujours avec Catherine Gosselin-Després, directrice exécutive sport pour Paralympique Canada. On va parler de la Coupe Parafort qui s'en vient du côté de Toronto. Restez là. Retour au signal, toujours Kevin Breton au micro. On le disait juste avant ce petit pont musical que la Fondation Bon Départ, en collaboration avec Canadian Tire, a permis un investissement d'$1 million qui va aider les athlètes dans les programmes de parasport. C'est vraiment une excellente nouvelle pour l'avenir du sport adapté et du sport paralympique au Canada, parce qu'on est toujours à la recherche de sources de financement pour aider ces athlètes. Et l'une de ces sources que Paralympique Canada a mis sur place depuis l'année passée, c'était comme leur projet pilote l'année dernière, ça revient pour une deuxième édition cette année, c'est la Coupe Parafort. Ça a eu lieu à Montréal déjà cet automne, ça leur a permis d'amasser $93 000 pour la fondation. Et la semaine prochaine, ben, c'est le deuxième événement cette année qui va avoir lieu du côté de Toronto. Est-ce que vous pouvez nous en glisser un mot, Catherine?
Oui, donc effectivement, ça va être le 21 février à l'Université de Toronto. Actuellement, on me dit qu'il y a environ 18 équipes qui se sont inscrites. Puis c'est ça, c'est des équipes, dans le fond, qui viennent de diverses compagnies privées, là. Donc, parfois, ils viennent de nos commanditaires existants. Parfois, ils viennent de d'autres compagnies. Pour nous, c'est un petit peu un point d'entrée pour commencer aussi la relation qu'on a là, avec le privé. Donc, si c'est une compagnie qui n'est pas notre commanditaire actuel, c'est des fois, ça nous aide à les connaître puis à développer notre relation avec eux. Puis, au cours de cet événement-là, dans le fond, les équipes ont tout un entraîneur qui va être un athlète paralympique qui les coach un peu là, sur les différents sports qu'ils vont devoir pratiquer. Donc, c'est ça, durant la demi-journée, il y a des épreuves d'athlétisme, de hockey luge, de basketball en fauteuil roulant, de volleyball assis et de goalball. Donc, quand même assez focusé sur les sports d'équipe, là, parce que c'est un défi par équipe. Et en plus du sport et des compétitions qui ont lieu, c'est sûr qu'ils se mettent tous au défi entre eux, mais aussi ils ont des défis de financement et de levée de fonds. Donc, puis tout ça, ça leur apporte un peu là, des prix à la fin. Donc, c'est sûr que c'est une activité là, pour l'esprit d'équipe, des compagnies. C'est un peu comme ça qu'on positionne ça. Puis comme vous l'avez dit, nous, on utilise ça là, comme une de nos sources de financement pour nos programmes de la prochaine génération, qui est vraiment excellent. Donc, je pense que ça amène un peu de... Tu sais, les compagnies veulent aider de cette façon-là aussi. Là. Puis des fois, c'est beaucoup plus facile d'aider à s'inscrire dans une compétition comme ça que d'avoir à donner une commandite complète là, en termes de niveau d'argent que ça peut coûter à la compagnie. Donc, c'est un excellent point d'entrée, comme je disais, pour de nouvelles compagnies, mais aussi pour les compagnies à mieux comprendre le sport paralympique, puis c'est quoi les différences entre le monde olympique et paralympique et tout ça.
Donc, ça leur sert aussi de team building, comme on peut voir dans les entreprises souvent. Donc, par exemple, nous ici, chez Canalem, si on voulait s'inscrire, c'est un coût d'admission de 5 000 $, on se fait une équipe de quoi, 5-6 personnes?
Ouais, normalement c'est environ ça. Puis après ça, ben il y a des buts de financement qui sont créés, mais c'est la compagnie comme telle qui établit les buts qu'elle veut atteindre. Ouais.
Pour motiver ses employés, par exemple, à faire 10 paniers au basketball en fauteuil roulant, par exemple.
Ouais, ça ou ramasser de l'argent en termes de OK, on veut ramasser 10 000 $ de plus que notre 5 000 $ d'inscription. Puis là, ben je pense qu'à l'interne de l'entreprise, ils mettent des mécanismes en place là, pour y arriver, disons.
OK. Ben dans le fond, c'est une très belle idée parce que ça vous permet d'utiliser le parasport à la fois comme source de financement, mais aussi comme médium en tant que tel pour le faire connaître.
Exactement. Donc c'est ça l'idée là. On savait déjà, dans le fond. L'idée a commencé parce que souvent, on amenait nos commanditaires faire la pratique d'un sport paralympique, puis ça avait toujours des très bonnes des très bonnes revues, dans le fond, là, en termes de rétroaction après les événements et tout ça. Et puis là, ben, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire un événement de financement, tout ça. Tu sais, si on veut amener du monde quand même jouer à des sports paralympiques, on devrait être capable de faire quelque chose d'un petit peu plus gros que juste une séance ici et là, une fois par année, disons. Donc, c'est ça. Puis ça aide à la promotion. Puis on sait tous que quand on pratique quelque chose, c'est très rare d'oublier comment ça s'est passé, quand c'est nous qui le fait. Donc, on veut rester dans la tête de ces compagnies-là aussi, puis des leaders de ces compagnies-là pour pouvoir continuer de promouvoir le mouvement paralympique avec eux, puis en général au Canada.
Puis l'année passée, ça a été un grand succès. À Montréal, vous avez permis d'amasser bien de l'argent. Puis il y a Benoît Huot, notamment, qui était là comme coach.
Oui, exactement. Je pense que Benoît, il a fait toutes les éditions
Ah
jusqu'à
ouais?
maintenant. Il va à Toronto,
Il
je
va
pense,
être là à Toronto
la semaine
aussi.
prochaine, là. Donc, ouais, Benoît, il est très actif et
Oui.
pépé quand il coach les équipes. Donc, ouais, non, c'est ça. Je pense que les athlètes aiment ça aussi, là, paralympique, d'aller coacher des compagnies. Puis là, ils se font des cris d'équipe. Puis il y a même des compagnies, là, ils se font des uniformes. Puis tout. C'est très sérieux.
Ça va, l'argent qui va être ramassé, c'est redistribué. De quelle manière? Est-ce que c'est via les fondations ou via les athlètes carrément?
Tous les ben en fond tout l'argent ben toute la levée de fonds va à notre Fondation paralympique canadienne. Puis eux, dans le fond, ils redistribuent l'argent au Comité paralympique canadien parce que c'est le but de la fondation finalement. Puis ça vient directement dans les programmes sportifs là, que moi je gère comme tel. Donc le bénéfice va directement aux Fédérations nationales du sport et aux athlètes là, à travers ça.
Et ce qui est bien, c'est que c'est une activité qui rapporte de l'argent et qui engendre pas nécessairement énormément de logistique parce que vous travaillez dans un terrain que vous connaissez bien déjà.
Exactement. Donc, c'est sûr qu'on fait appel à des partenaires plus locaux là, pour l'équipement
Oui.
et les gymnases, etc., pour s'assurer que ça se déroule bien, là. Mais tu sais, les coûts administratifs sont assez bas. Donc, ça, c'est positif aussi parce que l'argent qui est ramassé va pas dans l'administration et va dans les programmes directement.
Est-ce que c'est quelque chose en terminant que vous aimeriez qu'il se reproduise à chaque année? Est-ce que ça va être annuel comme événement?
Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est le plan là qu'on devrait en avoir entre 3 et 4 par année à travers le Canada. C'est sûr que là, tu sais, l'étude des différents marchés est en train de se faire parce que ça fonctionne pas pareil à Montréal, par exemple, qu'à Toronto. Puis c'est aussi parce que tu sais, nous, on est à Ottawa, donc comment on fait nos réseaux dans ces villes-là pour s'assurer que tu sais, on a les bonnes personnes en place, puis les bonnes compagnies aussi sont approchées. Donc on fait appel un peu à nos réseaux actuels pour essayer d'agrandir notre champ en termes de qui s'implique, puis comment on peut recruter des équipes et puis tout ça. Mais on va aussi aller dans l'Ouest l'année prochaine, probablement à Vancouver. Là, il y a plusieurs discussions en cours actuellement, là, mais c'est ça, on va passer là, de 3 à 4 par année, justement, là, parce que c'est un super bon succès. Puis on voudrait aussi que les équipes, à chaque année, amènent leurs employés, puis que ça continue là, une petite compétition annuelle entre les compagnies et les
Peut-être genre
employés.
éventuellement faire un classement général cumulatif des années précédentes, pourquoi pas. Merci Catherine Gosselin-Després d'avoir passé l'émission avec nous aujourd'hui puis nous avoir offert ce tour d'horizon sur le soutien financier offert aux athlètes paralympiques.
Merci beaucoup, Kevin, et n'oubliez pas de regarder les Jeux paralympiques
Bien sûr.
qui auront lieu du 9 au 18 mars.
On va suivre ça avec intérêt, c'est certain. Merci Catherine.